Histoire de vin, un podcast pour découvrir et explorer le monde du vin avec Étienne Pommier.
Dans la mythologie grecque, il existait en plein océan un paradis terrestre semblable aux Champs-Élysées où les âmes vertueuses goûtaient un repos parfait et auquel les anciens faisaient allusion sous le nom d'île fortunée ou île des bienheureux. En grec ancien, makaron nezoi. C'est de cette étymologie que vient le terme de Macaronésie qui correspond à l'ensemble des îles situées au large de l'Europe et de l'Afrique, comprenant les Açores, les Canaries, Madère et le Cap-Vert. Pendant longtemps, certains ont cru y voir les restes de la légendaire Atlantide. Mais au-delà de la mythologie, ces terres émergées partagent entre elles de nombreux liens historiques et culturels, une faune et une flore endémiques, et des similitudes géographiques qui en font, malgré la distance qui les sépare, un ensemble cohérent. Nous parlerons des vins de Madère dans un autre podcast, tant l'île, son histoire et sa production sont singulières. Et aujourd'hui, je vous invite à larguer les amarres et vous emmène avec moi en plein Atlantique pour découvrir les vins des Açores et des Canaries. D'un point de vue géologique, les deux archipels partagent une origine commune puisqu'ils sont tous les deux situés sur des points chauds du globe. Un point chaud, c'est un endroit de l'écorce terrestre où le manteau magmatique arrive à remonter vers la surface, donnant lieu à une intense activité volcanique. Le dernier épisode volcanique aux Açores remonte à 1957, et comme les statistiques font état d'une éruption tous les 50 ans environ dans la région, on peut s'attendre à un regain d'activité dans le futur proche. Les Canaries, quant à elles, ont été le théâtre d'une éruption fin 2021 dans l'île de La Palma. Le volcanisme y est donc toujours très actif, et continue de modeler la géologie de ces îles. S'il est très délicat d'établir une nomenclature précise des sols volcaniques plantés en vigne, tant ils sont variés dans leur composition et dans leur structure, ils possèdent tout de même plusieurs points communs. Ce sont généralement des sols plutôt pauvres en matière organique, mais riches en minéraux et très drainants, des caractéristiques considérées comme qualitatives en viticulture. Par ailleurs, ces terres atlantiques sont également situées sur la route du même courant marin froid, le courant des Canaries, qui favorise la remontée des eaux profondes à la surface, enrichissant la vie marine des deux archipels tout en rafraîchissant leur climat. Les températures moyennes dans les îles oscillent entre 16 et 25 degrés toute l'année, et contrairement au continent, les fortes chaleurs supérieures à 32-33 degrés y sont plutôt rares. Ces paramètres favorise la viticulture et la production de vins moins riches et moins alcoolisés que ces latitudes ne pourraient le suggérer, avec des degrés naturels variant généralement entre 11,5 et 13,5%. Par ailleurs, l'isolement de ces territoires a favorisé l'utilisation de variétés locales plutôt que de cépages internationaux, tout en protégeant en partie ces vignobles insulaires de certains pathogènes. Enfin, les contraintes spécifiques au climat et au terroir de ces îles ont donné naissance à des modes de culture uniques au monde, à commencer par celui des Açores. Situés entre 36 et 38 degrés de latitude nord, soit par le travers de Lisbonne et du New Jersey, l'archipel des Açores se trouve en plein milieu de l'Atlantique, à 1500 km des côtes marocaines et à près de 2000 km de celles de Terre-Neuve. Il tient son nom et son emblème d'un petit rapace, l'autour des palombes, Açores en portugais, et comprend 9 îles réparties en 3 groupes. Le groupe oriental, avec São Miguel, la capitale, et Santa Maria. Le groupe central, avec Faial, Pico, São Jorge, Graciosa et Terceira. Et le groupe occidental, avec Corvo et Flores. Les vignobles sont concentrés dans le groupe central, principalement à Pico et Terceira, mais aussi sur des cendres volcaniques dans l'île de Faial. Il existe un tout petit vignoble sur l'île de Graciosa, mais qui a durement souffert de la dévastation du phylloxéra. Le climat océanique de l'archipel est doux, avec peu d'amplitude thermique, et le célèbre anticyclone des Açores le protège contre les fortes dépressions la majeure partie de l'année. Par contre, les vents d'ouest apportent une humidité élevée et des pluies régulières qui mettent constamment les producteurs sous la pression du mildiou et de l'oïdium. Cœur de la viticulture açoréenne, l'île de Pico est dominée par le Ponta do Pico, qui culmine à 2351 mètres. Le volcan fait obstacle aux nuages, qui déverse jusqu'à 5000 mm de précipitation à son sommet, contre seulement 1000 mm en bord de mer. C'est pour cette raison que toutes les vignes sont concentrées sur le littoral, entre le niveau de la mer et 300 mètres d'altitude, là où les crabes chantent, comme le dit un proverbe local. Non seulement cette proximité de l'océan expose la vigne aux embruns, mais elle force aussi les vignerons à planter sur le sol inhospitalier du bord de mer. Des nappes d'une croûte lavique épaisse et dure comme le béton, les lagilos ou biscoitos. Pour arriver à planter dans ce terrain particulièrement difficile, les pionniers de Picot ont dû creuser la lave au pic et à la masse afin d'arriver à trouver un peu de terre meuble à 70-80 cm de profondeur pour y planter les cèpes. Les pierres extraites étaient réutilisées pour bâtir des murets de protection contre les brises marines, donnant naissance à l'un des paysages viticoles les plus singuliers du monde. Les curaiches ou curaletas, d'après cural qui veut dire corail en portugais, en référence aux formes arborescentes de ces kilomètres de murs de basalte. Allez voir des images sur internet, c'est l'un des paysages viticoles les plus stupéfiants du monde. Chaque vigne est ceinte d'un mur extérieur et divisée en plusieurs curaiches rectangulaires séparées par des allées dénommées traveses. Le nombre de cèpes dans chaque cural dépend de la richesse du sol, mais sur ces terrains extrêmement pauvres, la densité dépasse rarement les 1500 pieds à l'hectare. Par ailleurs, le basalte garde la chaleur de la journée et irradie les vignes à la nuit tombée, favorisant ainsi la maturation des baies dans ce climat souvent frais. Évidemment, tout le travail se fait manuellement, et c'est un travail harassant car les vignes poussent au ras du sol, à l'abri du vent, ce qui explique que le prix de ces vins, produits dans des conditions extrêmes, soit assez élevé. Comptez autour de 30-40 euros la bouteille. Façonné par cette viticulture héroïque, le paysage de l'île est inscrit depuis 2004 au patrimoine mondial de l'UNESCO pour sa beauté exceptionnelle, témoignage du travail de générations de paysans dans un milieu hostile. Si l'île de Picot est le cœur historique de la viticulture açorienne, un autre vignoble a ressuscité en 2017 dans l'île voisine de Fayal. Un vignoble détruit il y a un demi-siècle par la fureur d'un volcan. Le 23 septembre 1957, des pêcheurs de Fayal racontèrent que l'océan s'était mis à bouillir près de la côte nord de l'île et quelques jours plus tard, une colonne de cendres de plusieurs kilomètres de hauteur commença à s'élever, forçant l'évacuation des habitants. L'éruption qui s'ensuivit pendant plus d'un an recouvrit une partie du village et le seul vignoble de l'île. Quand les cendres retombèrent, un nouveau volcan avait émergé, le Vulcão dos Capelinhos. Le phare de Capelinhos, qui se dressait à l'époque sur une avancée rocheuse dominant l'océan, a résisté à l'éruption, mais il se trouve aujourd'hui à plus de 200 mètres du bord de mer. En 2008, Gianni Mancasola et Cinzia Caiazzo rachètent une propriété dans le village et apprennent l'existence du vignoble historique englouti sous la cendre de leur terrain. Dès lors, ils choisissent de replanter une parcelle de vigne sur le nouveau terroir du volcan pour tenter de recréer le vignoble disparu. En 2017, 60 ans après l'éruption, Adega do Vulcão lance son premier millésime d'Amei Chambar, qui veut dire roche ambrée, issu en partie des vignes de Capelinhos, marquant le renouveau de la viticulture dans l'île de Fayal. La dénomination IGP Açores inclut tous les vins produits dans l'archipel qui possèdent également trois appellations d'origine créées en 1994, dont la principale est la DO Picot. La très grande majorité de la production est constituée de vins blancs autour des trois variétés emblématiques de l'archipel. L'Arinto des Açores, le Verdelho et le Terrantes do Picot. L'Arinto des Açores présente une acidité aiguisée et une palette aromatique allant des notes florales aux agrumes en passant par les fruits verts type melon d'eau ou papaye. Le Verdelho est le même cépage que celui qu'on trouve à Madère, une variété issue à l'origine du Savagnin et qui s'exprime sur une dominante de notes citronnées avec une acidité très marquée. Devenu très rare, le Terrantes do Picot quant à lui est le plus souvent assemblé avec les deux autres. Le caractère des vins blancs des Açores est marqué tant par la douceur du climat et les influences marines que par le terroir volcanique. Les meilleurs exemples sont issus de levures indigènes avec des élevages sur lit assez longs. Pour vous faire une idée par vous-même, je vous invite à découvrir les vins d'Adega do Vulcão ou d'Açores Wine Company, deux des producteurs les plus intéressants de l'archipel. Si l'Arinto des Açores et le Verdelho s'expriment sur des notes d'agrumes et de fruits verts, les vins sont toujours structurés par une acidité nerveuse et une finale légèrement fumée. Sur ces terres battues par les embruns, l'eau de mer s'infiltre dans les fissures de la roche et se mélange dans le sous-sol au ruissellement des pluies. En se frayant un chemin dans les fractures du basalte, les racines viennent y puiser l'eau dont elles ont besoin, une eau légèrement saline et très minéralisée. Dans ces conditions, il est intuitif d'attribuer les accents salins et la minéralité un peu cendrée des vins à ce terroir, à la fois très volcanique et résolument maritime. L'archipel des Canaries, lui, est situé plus au sud, par 28 degrés de latitude nord, à une centaine de kilomètres des côtes marocaines. Il tire probablement son nom d'île aux chiens, Canaria insulae, des grands chiens de garenne que les premiers Européens y trouvèrent en débarquant. À moins que ce ne soit plutôt une référence aux premiers colons berbères des îles appelés Canaries. Les Canaries se composent de 7 îles, d'est en ouest, Fuerteventura, Lanzarote, la Grande Canarie, Tenerife, la Gomera, la Palma et El Hierro. Lanzarote et Tenerife sont les deux îles où la viticulture est la plus développée, mais la Palma a également une longue tradition viticole et la Grande Canarie commence également à se développer. L'île de Lanzarote est la plus volcanique, la plus sèche et la plus minérale de tout l'archipel. Il y pleut à peine 200 mm par an, ce qui en fait un climat quasi désertique, et l'île est couverte de sables et de roches volcaniques. Ce paysage unique est dû à l'éruption du Timan de Faya en 1730, qui a recouvert toute une partie de l'île de cendres. Cette éruption a duré 6 ans, 6 années ininterrompues de feu et de fureur qui ont fait fuir tous les habitants, détruit une dizaine de villages et dont les multiples explosions pyroclastiques ont recouvert le sol d'un sable noir. Or, ce sable est essentiel à la viticulture de Lanzarote, car il permet à l'eau de rosée et aux rares pluies de s'infiltrer dans le sol, qu'il protège ensuite des rayons du soleil, et donc de l'évaporation. Pour parvenir à y planter la vigne, les vignerons ont dû creuser des petits cratères dans la couche de sable afin d'arriver jusqu'à la terre, et ils élèvent parfois des petits murets de pierre en arc de cercle autour de chaque pied de vigne pour le protéger des alizés qui soufflent en permanence et qui soulèvent le sable. Dans la vallée de la Géria, ce mode de culture a façonné un paysage noir et lunaire d'où émerge seulement tous les 3 ou 4 mètres le feuillage verdoyant d'une vigne dans son cratère, comme si une pluie de météorites avait éparpillé en tombant des éclats d'émeraude sur ces étendues de cendres noires. Le cépage principal de Lanzarote est la Malvoisie volcanique, une variété endémique de l'île qui produit des vins blancs secs, demi-secs et doux. C'est un cépage doté d'une gamme aromatique assez intense sur des notes qui évoquent la pêche ou le magnolia, avec une texture veloutée et une acidité douce. La référence historique de l'île est la bodega El Grifo, l'une des plus vieilles d'Espagne, fondée en 1775. Mais une nouvelle génération de vignerons prend aujourd'hui la relève avec beaucoup de talent, tel que le trio derrière le projet Puro Rofe, Rafael Mota, Ascension Robaina et Pedro Umpires. À l'extrême ouest des Canaries, les vallons forestiers et la forêt humide de La Palma offrent un contraste saisissant avec la sécheresse minérale de Lanzarote. L'île, surnommée Isla Bonita par les locaux, a la forme d'une larme dont le nord est occupé par l'immense caldeira de Taburiente, vestige d'un ancien volcan et dont les remparts culminent à plus de 2400 mètres. Au pied de ces montagnes, au nord-ouest de l'île, le village de Garafia accueille une petite partie du vignoble palmero. La partie sud de l'île, quant à elle, est partagée en son milieu par une dorsale volcanique d'une vingtaine de kilomètres, la Cumbre Vieja. C'est là que s'est déclarée l'éruption du 19 septembre 2021 et qui a duré jusqu'à Noël, après avoir enseveli plusieurs villages sous les coulées de lave. S'ils ont été choqués par le phénomène et par la destruction qu'il a occasionné, les habitants de l'île ont également été émerveillés de voir à l'œuvre les forces telluriques qui ont forgé leur terre. Et je ne doute pas qu'avec le temps, ils se réapproprieront avec fierté le terrain brûlé par le volcan. C'est ce qu'ils ont fait dans le sud, où les vignes se concentrent autour de Fuencaliente, à la pointe de l'île, avec comme domaine phare la bodega Matias y Torres, appartenant à la même famille depuis 1885 et spécialisée dans les vins blancs de Malvoisie. Mais cette Malvoisie-là, probablement originaire de Crète, n'est pas la même que celle de Lanzarote. et elle produit dans ce terroir océanique très venté un blanc liquoreux issu de vendanges tardives d'une grande complexité. Un proverbe local dit d'ailleurs que celui qui est venu à Fuencaliente sans goûter son vin est venu pour rien. On trouve aussi quelques vins blancs secs, notamment issus du cépage Albillo Criollo, et de rares vins rouges. Mais la curiosité œnologique de l'île, c'est le vino de Tea. Tea, c'est le nom du pin des Canaries, qui pousse en abondance sur l'île. Dans le passé, on l'utilisait pour fabriquer des barriques, le chêne ne poussant pas sur la palma. Et quelques vignerons perpétuent la tradition en élevant, dans des barriques de pin, un vin rouge local élaboré à partir du cépage Negramol. Le résultat est un vin unique au parfum de résine très intense qui se décline aujourd'hui en blanc et rappelle un peu le Retsina grec. Mais l'île qui symbolise le cœur de la viticulture canarienne et qui accueille le plus de vignobles est celle de Tenerife. Plus grande île de l'archipel, Tenerife est dominée par le Teide, un stratovolcan qui culmine à 3715 mètres d'altitude, ce qui en fait le point culminant de toute l'Espagne. Le Teide joue un rôle essentiel dans le climat de Tenerife car il partage l'île en plusieurs zones qui, selon leur exposition aux alizés, peuvent être soit très océaniques avec une pluviométrie importante, soit au contraire très arides. Le nord-est de l'île est la partie la plus fraîche et la plus humide, autour de la ville de La Laguna, dans l'appellation Tacoronte Acentejo. La côte nord est un peu plus chaude, mais bénéficie toujours de précipitations suffisantes autour du village historique de La Orotava. La pointe nord-ouest constitue l'appellation Icoden d'Aute Isora, et l'île compte deux autres zones dans la partie plus sèche, Guimar et Abona. Le climat des Canaries est un peu plus chaud que celui des Açores, car l'influence rafraîchissante du courant froid y est tempérée par le Sirocco, qu'on appelle ici Calima, un vent chaud qui vient du Sahara. Cette douceur permet la culture d'une plus grande variété de cépages et notamment une production importante de vins rouges. L'altitude est un autre facteur essentiel à Tenerife, notamment dans l'ouest et dans le sud, car elle permet de garder la fraîcheur dans les vins, particulièrement autour des villages de Santiago del Teide ou de Villaflor, avec des vignobles à plus de 1000 mètres d'altitude. On trouve à Tenerife de nombreuses variétés, parmi lesquelles on citera en blanc le Listan Blanco et l'Albillo Criollo, et le Listan Negro en rouge. Le Listan Blanco, plus connu sous le nom de Palomino, produit ici des vins blancs séveux et minéraux, dotés d'une belle tension grâce à l'altitude. Peu aromatiques, ce sont des vins de texture et de nervosité avec une salinité parfois marquée et dont les meilleures cuvées offrent une persistance remarquable. L'Albillo Criollo est un autre cépage blanc au profil aromatique, floral et fruité plus extraverti que le Listan et qui donne des vins plus riches. Enfin, le Listan Negro est le cépage rouge principal de Tenerife, une variété autochtone parfaitement adaptée au climat océanique doux et au sol volcanique de l'île. Ce cépage atlantique par excellence produit des vins à la robe d'un rubis léger et aux notes de baies rouges et noires un peu acidulées, type groseille, fraise des bois ou sureau, et de légers accents poivrés. Peu tannique, il possède un grain assez fin et une acidité vive qui produisent des vins pleins d'énergie et de sève avec des degrés d'alcool généralement peu élevés, de l'ordre de 12,5 à 13 degrés. Les vieilles vignes de Listan Negro, telles que la cuvée Tagañán de la maison Envinate, atteignent une finesse et une classe surprenantes pour qui ne connaît pas les vins canariens, et qui soutient la comparaison avec tous les vins rouges sur la vivacité produits en Europe continentale. Je vous invite à rechercher ces cuvées pour les déguster au moins une fois. C'est autant une surprise qu'un véritable choc gustatif. Car au-delà du climat et de la qualité des terroirs, les Canaries en général et Tenerife en particulier ont la chance de ne pas connaître le phylloxéra et donc d'avoir de très nombreuses vieilles vignes, parfois centenaires. Le domaine Suertes del Marqués possède même certains pieds qui pourraient avoir plus de 200 ans. Des vignes exceptionnelles à plus d'un titre, car contrairement à d'autres régions où les pieds sont plantés tous les 1, 2 ou 3 mètres, les plus vieilles parcelles de la vallée de la Orotava sont plantées tous les 10 mètres, voire plus. Les ceps y sont conduits selon la méthode du cordon trenzado, ou cordon tressé. Le tronc de la vigne est littéralement tressé par les vignerons le long du treillis et peut atteindre 10 ou 15 mètres de long. Ce patrimoine viticole unique au monde fait la fierté des viticulteurs de Tenerife et donne naissance aujourd'hui à certains des plus beaux vins d'Espagne, tant en blanc qu'en rouge. Les deux producteurs principaux qui ont mis au premier plan les vins de Tenerife sont la bodega Suertes del Marqués, dirigée par Jonathan García Lima, et le domaine Envinate, projet à quatre mains mené par Alfonso Torrente, José Andrés Martínez, Laura Ramos et Roberto Santana. Mais la scène locale est dynamique avec des jeunes domaines prometteurs, parmi lesquels on peut citer la toute jeune bodega Tierra Fundida de Loreto Pancorbo et Gabriel Morales. Pico, Tenerife, Lanzarote, La Palma. Qui aurait cru que ces îles lointaines, en plein océan, produisent du vin si loin du continent? Et non seulement elles produisent du vin, mais certaines cuvées, aussi bien en blanc qu'en rouge, sont de véritables grands crus redoutables en dégustation à l'aveugle. Dans ces îles, battues par les vents et apparemment inhospitalières, les hommes ont inventé et perfectionné à force de travail et de résilience des modes de viticulture parmi les plus stupéfiants de la planète. Sur ces terres émergées, que certains ont longtemps pris pour des vestiges d'un continent perdu, des générations de vignerons ont su préserver un formidable patrimoine naturel et traditionnel dont les héritiers nous permettent aujourd'hui de savourer les fruits. Forgés par le feu et l'eau, les crus des Açores et des Canaries possèdent un caractère bien trempé, des vins atlantiques chargés de toute la fraîcheur et de l'énergie de l'océan qui offrent une expérience de dégustation unique en même temps qu'une véritable invitation au voyage. Et si finalement c'était ça, le trésor de la mythique Atlantide ?